Les cinéphiles, Sandra.
Bonsoir, bienvenue chez les cinéphiles. À l'affiche ce soir, le film du réalisateur japonais Hirokazu Kore-eda, Une affaire de famille. Le film sera à l'honneur pour la critique de ce soir, la dernière de l'année. À 18h30, nous ne manquerons pas de nous informer et aux alentours de 18h45, tenez-vous prêts à découvrir le titre d'un film grâce à un extrait, un film de saison qui parle de Noël, un film qui vous permettra peut-être de gagner deux places pour vous rendre à la séance de votre choix dans nos cinémas Cinémon, Cinépel et Cinévital. Pour bande originale, nous écouterons quelques extraits de la bande-son du film Captain Fantastic. Et tout de suite, eh bien, on retrouve les sorties de la semaine en compagnie de Raphaël Chevalet. Très bon début de soirée en notre compagnie. On est ensemble jusqu'à 19h.
Les cinéphiles, les sorties.
Bonsoir Raphaël. Cette semaine, il y en aura pour tous les goûts dans les salles de notre région avec, pour commencer, Aquaman.
Oui, bonsoir Sandra. Aquaman de James Wan. Alors lui, c'est plutôt un habitué du film d'horreur. Hein. Il a fait Saw, Insidious, Conjuring. Mais là, il se frotte au film de super-héros issu de l'univers des comics DC. Donc c'est la première aventure solo du super-héros Aquaman avec son trident, hein, genre Poséidon. Mmh. On l'a déjà vu dans Batman contre Superman et Justice League, mais là, le film va remonter un peu à ses origines, expliquer la naissance de ce super-héros. Le défi un peu de ce film, c'est d'aller dans quelque chose qui n'est pas trop kitsch, avec tous ses décors et ses bestiaux sous-marins, et de raconter ses origines. Bon, moi, je préfère nettement Wonder Woman.
On ne vous demande pas pourquoi. Elle est de retour en 2018, elle retrouve la famille Blanc, elle va faire la connaissance des trois enfants de Michael dont elle avait la charge dans les années 70. Elle, c'est Mary Poppins, plus vraie que nature, interprétée par la jolie Emily Blunt.
Comme par magie, au bout d'un cerf-volant, la nounou énigmatique va réapparaître pour raviver l'ambiance au foyer. Et puis aussi un peu l'éducation des enfants, hein, parce que les deux, Michael et Jane, ils ont eu trois enfants et elle va aussi un peu les prendre en charge. Alors ce qui est toujours assez bien, c'est que c'est l'animation, enfin le mélange entre cinéma d'animation et prise de vue réelle fonctionne très bien. Les morceaux de comédie musicale sont très bien faits. Il faut dire que Rob Marshall, le cinéaste, a l'habitude. Hein, il avait fait notamment Chicago, qui était aussi une comédie musicale assez réussie. Et puis, ben voilà, ça se laisse voir sans déplaisir, c'est divertissant, c'est Mary Poppins.
The Bookshop, un film espagnol qui sort cette semaine, réalisé par la catalane Isabel Coisset. C'est l'adaptation du roman du même nom de Penelope Fitzgerald, paru en 1994. Et il est à l'affiche en ce moment dans les salles.
C'est une histoire d'une femme très courageuse dans une petite ville du nord de l'Angleterre. Ça se passe dans les années 60. Et puis, elle décide de racheter une maison pour y ouvrir une librairie. Et puis le jour où elle se met à vendre Lolita, vous savez, hein, le sulfureux roman de Nabokov dont Stanley Kubrick a notamment fait son génial film, eh bien ça déplaît un peu aux notables et conservateurs du coin qui vont tout faire pour poursuivre son entreprise et puis fermer cette librairie. C'est un plaidoyer en faveur de la littérature, bien sûr, puisqu'on parle beaucoup de l'amour de la lecture, etc., avec des acteurs qui scandent un anglais très british, hein, donc c'est joli à entendre aussi. Mais surtout, c'est une manière d'illustrer la façon dont un groupe de gens va agir pour étouffer celle qui est différente, finalement. Et puis, malgré, on va dire, une réalisation assez classique, une ambiance un peu désuète, surannée, c'est un film qui est finalement assez sombre, mais aussi très féministe, donc aussi bien dans l'air du temps, c'est assez bien fait.
Et dans les salles, sous la houlette de Jean-François Richet, Vincent Cassel est l'empereur de Paris.
Jean-François Richet, que j'avais adoré parce qu'il a fait ce diptyque sur Jacques Mérine, qui était déjà avec Vincent Cassel.
Exactement.
Donc c'est un cinéaste qui est assez doué pour le polar, le film criminel, etc. Et là, il s'attaque à Vidocq. Donc Vidocq, c'est déjà la dixième adaptation. Il y en avait eu
quelques années avec Ventura.
Ouais. Oui, il y avait eu celle-là. Il y a quelques années, plus proche de nous, il y avait Depardieu aussi.
Exactement.
De Vidocq. Et puis donc là, il raconte de nouveau cette histoire de ce voyou as de l'évasion qui va prendre en charge un service de la police de Paris pour s'infiltrer dans la pègre, etc. Il va se retrouver entre les policiers classiques et puis la pègre qui met sa tête à prix. Et puis alors c'est vraiment plein d'action, du suspense, la reconstitution du 19e à Paris, c'est génial. Moi j'adore ce film.
Votre coup de cœur cependant, Raphaël, c'est Wildlife de Paul Dano. Parlez-en-nous, faites-nous envie.
Oui, Paul Dano, c'est l'acteur qui jouait le jeune prêtre un peu fou, complètement... obscurantiste dans There Will Be Blood. Il est acteur avant tout, hein. Il a aussi joué l'ado silencieux dans Little Miss Sunshine. Je sais pas si vous vous souvenez.
Ah oui, bien évidemment, on se souvient surtout de Little Miss Sunshine, surtout de grand-père.
Enfin, lui, c'est d'abord un grand acteur, et puis là, il est passé derrière la caméra. C'est son premier long-métrage. C'est l'adaptation d'un roman qui s'appelle Une saison ardente, qui se passe dans les années 60. Et puis, c'est l'histoire d'un ado qui vit avec son père et sa mère, et son père perd son job et commence une dépression. Sa mère suffoque un peu dans son rôle de femme au foyer. Et c'est fait avec une grande finesse. Il y a une grande tranquillité qui permet de capter un peu les silences et les non-dits, qui nous montrent comment cette famille de la classe moyenne américaine va complètement voler en éclats. Et le couple, qui est joué par Carey Mulligan et Jack Gyllenhaal, est étonnamment moderne et réaliste, parce que le film installe peu à peu une tension psychologique assez forte. Les deux membres de la famille, les deux parents, vivent quasiment sous le regard permanent de l'autre, ce qui transforme le foyer en un espace très surveillé. Puis ça contraste très bien, cette tension qui est amenée comme ça contraste très bien avec la reconstitution des 60s plutôt colorées. Donc c'est vraiment un excellent film à voir de toute urgence. Ouais.
À Neuchâtel et dans le canton du Jura, puisqu'il débarquera en avril à Berne. Un grand merci Raphaël pour nous avoir aiguillés sur les sorties de la semaine. D'excellentes fêtes à vous et on se réjouit de vous retrouver en 2019.
Alors bonne année Sandra, à l'année prochaine.
Les cinéphiles, la critique.
Le réalisateur japonais Hirokazu Kore-eda nous livre un de ses plus beaux films avec Une affaire de famille, un film récompensé par la Palme d'Or cet été à Cannes, sorti dans les salles la semaine passée et toujours à l'affiche. Les thèmes de Kore-eda, pour la majeure partie de ses films, sont inspirés de son vécu. Il parle de l'enfance, des liens du sang, de ceux du cœur, il parle d'amour et d'amitié, de famille, et la particularité du réalisateur est de nous offrir toutes ces valeurs comme un partage de façon éblouissante. C'est avec beaucoup de tendresse que pour Une affaire de famille, il narre l'histoire de deux parents, de deux enfants et d'une grand-mère, tous réunis sous le même toit, qui vont accueillir une petite fille, Yuri, rebaptisée Lynn. Au fil des minutes, le spectateur va découvrir que ni la grand-mère, ni les parents, ni le petit garçon ne partagent de liens parentaux, qu'ils se sont choisis et que la dernière arrivée au sein de cette pseudo-famille a été kidnappée. Mais attention, le film n'est pas un polar, ni même une enquête, et pas un thriller non plus. Pas de violence, ni de demande de rançon. Kore-eda, pour son dernier long métrage, pose la question sur ce qui compose une vraie famille, quelles sont ses valeurs, et que doit-on respecter dans une appartenance qui nous a été imposée. Le cinéaste met en lumière ce qu'il a vécu enfant. Comme le jeune protagoniste, il vivait dans une maison semblable à celle du film et dormait dans ce qu'on appelle au Japon un oshi-ire, un placard à porte coulissante destiné la journée à ranger les futons. Son père, peu démonstratif, n'a pas su mettre la distance juste et bienfaisante entre lui et l'enfant, et le désenchantement que ressent le garçon tout au long du film est un ressenti bien connu du réalisateur, mais également de nombreux garçons au moment de l'adolescence. Distance qui s'impose dans une affaire de famille, notamment à cause du rapport à l'argent et au mode de vie dont les personnages usent, l'illégalité. La famille vit d'arnaque à l'assurance et de vol à l'étalage afin de se nourrir et de survivre tant bien que mal dans la banlieue d'une grande ville. Comme un jeu, tous les membres se délectent de cette façon de fonctionner. Le réalisateur arrive avec délicatesse à filmer ses comportements hors du commun, sans jugement, en douceur, et faire oublier aux spectateurs la pauvreté et le milieu insalubre où vit cette famille plus qu'attachante. Il a de l'empathie pour ses perdants débrouillards, pas malheureux, juste assez malins, qui sans se mettre en marge de la société sont tout de même un peu décalés, mais joyeux. Pour le coup, le ton est léger. Kore-eda, par sa façon de filmer, est tellement proche des acteurs qu'on a l'impression d'être au cœur même de cette famille et de partager jusqu'à leur intimité. Une intimité qui, comme souvent dans les films japonais, rime avec pudeur et douceur. Certaines lenteurs peuvent se confondre avec longueur, mais les rebondissements sont tels que l'on attend patiemment, imperturbable. Le dénouement de l'histoire, qui pour ce film est majestueux. On reste perplexe et ravi d'avoir fait la connaissance de cette famille pauvre, mais tellement riche d'amour. Le dernier plan est déchirant, on ressort de la séance un peu sonné. Ce chef-d'œuvre cinématographique nous prouve une fois encore qu'on ne choisit pas sa famille et que les liens du sang ne sont pas, comme on l'a dit souvent, les plus forts et les plus serrés, mais que, heureusement ou son contraire, ce sont des liens qui, dès la naissance, nous tiennent pieds et poings liés.
Les cinéphiles, coup de projecteur.
Le réalisateur Kore Eda a entendu parler il y a quelques années de familles japonaises qui touchaient illégalement la pension de retraite de leurs parents morts depuis longtemps. En s'imaginant que seul le crime nous réunit et en s'inspirant de ce fait divers fréquent au Japon, il a décidé de mener son projet, une affaire de famille. Si comme partout ailleurs, la fraude à l'assurance, le vol et autres délits mineurs sont punis par la loi, cela n'a pas empêché le réalisateur de créer une famille liée par justement tous ces délits. Sans pour autant imposer à chacun des personnages un problème de société, mais plutôt pour l'envie d'écrire et de décrire une famille au bord du gouffre et sur le fil. Une famille perpétuellement menacée et en danger, mais qui ne pourrait que difficilement tomber plus bas. Une famille qui, pour garder la tête haute, s'en sort grâce aux magouilles. Une famille marginale qui se bat pour ne pas l'être encore plus. Et si le film est réaliste, il évoque également, avec poésie, les travers de la société actuelle, mais sans militantisme, et il nous touche en plein cœur. L'émotion dans la salle est palpable et grâce à une histoire simple et une histoire de gens ordinaires, cette histoire de famille recomposée, finalement, eh bien, lui, il y arrive, ce grand cinéaste Kore Eda, le temps du film à nous faire oublier la nôtre et tous les soucis qui vont avec.
Les cinéphiles, jusqu'à 19h.
C'est à vous de jouer et ce sera très facile. Je sens que vous allez tous vous emballer. Alors 0901 70 20 20 ce soir, juste après l'extrait, afin de retrouver le titre d'un film culte de 1982. C'est à vous de jouer. On recherche un film sur Noël et de Noël. Un film qui se déroule en huis clos, inspiré d'une pièce de théâtre qui met en scène Thérèse, Pierre, Félix et Zézette et leur voisin Monsieur Preskovitch.
Les cinéphiles.
Joyeux Noël, Pierre.
Ah, c'est pour moi.
Oh, oh, ah,
oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez.
Non, Pierre, c'est un gilet.
Ah oui. Ah ben bien sûr. Ah mais alors bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi.
Les cinéphiles.
Il est ravi, mais dans quel film est-il ? On a, alors je vous l'avais dit, c'était sûr hein, que ça allait s'emballer ce soir, et j'ai quelqu'un en ligne. Bonsoir.
Bonsoir, ici c'est Jeannine et Adeline.
Mais bonsoir Jeannine et bonsoir Adeline, d'où nous appelez-vous ?
Alors, de Soyères.
De Soyères. Est-ce que vous allez bien, Jeannine et Adeline ?
Eh bien, merci.
Est-ce que vous avez trouvé, est-ce que vous pensez avoir trouvé l'extrait, le film auquel l'extrait se rapporte ?
J'espère que je ne me trompe pas, le Père Noël est une ordure.
Mais oui, c'était bien ça, et c'est lorsque Thérèse lui fait un cadeau et qu'il déballe ce merveilleux pull, ce merveilleux gilet, n'est-ce pas, qu'il pense être une serpillière. Est-ce que, alors,
moi, oui.
Jeannine, alors vous l'avez certainement vu, mais est-ce que votre fille Adeline, elle, est-ce qu'elle a vu le Père Noël est une ordure ?
Je ne pense pas, non.
Alors, effectivement, quel âge a Adeline ? Qu'on se rappelle quel âge a Adeline, puisqu'on l'a déjà vue, on l'a déjà aperçue hein, au sein de la radio, puisqu'elle est fan, elle nous écoute souvent, elle vient de temps en temps nous rendre visite. Adeline, donc, à 10 ans. Oui, alors, c'est juste un chouïatou, on va dire, hein, pour le Père Noël est une ordure. Peut-être
oui,
quand
oui.
Elle sera un peu plus grande. Mais après, de toute façon, c'est un peu comme les bronzés, ou bien ça va pas, il va pas mal vieillir, il va rester culte et elle va pouvoir le regarder plus tard. En tous les cas, les filles, c'est vous qui avez gagné ces deux entrées pour vous rendre dans le cinéma Cinémon, Cinépel et Cinévital, donc grâce au Père Noël qui, finalement, n'est pas une ordure. Est-ce que vous savez déjà ce que vous irez voir ?
Pas encore, non, pas encore.
Alors, si vous écoutez les cinéphiles, en ce moment, pour les enfants, si vous voulez y aller avec Adeline, n'est-ce pas ? Vous savez qu'il y a Rémi sans famille, il y a également Mary Poppins hein, qui va sortir ce mercredi. The Grinch, en fait... Il y a pléiade de choix pour vous rendre donc au cinéma avec Adeline. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent moment. C'est très gentil d'avoir appelé. Vous ne raccrochez pas. Je prends vos coordonnées hors antenne. Je vous souhaite une excellente soirée. Un grand merci d'avoir joué. Un grand bravo. Et puis de belles fêtes de fin d'année.
Merci à tous aussi.
Elle vous a lâché là. On l'entend plus.
Si, si, je suis là.
Adeline est là?
Oui.
Ah, on n'entendait plus sa voix. Alors, très belle fête et excellente soirée. Un grand merci d'avoir participé.
Les cinéphiles, bande originale.
Pour faire un bon film, il faut, selon les dires de plusieurs réalisateurs, un bon scénario, de bons acteurs, de belles images et en arrière-plan, de beaux paysages. Et par-dessus tout, une bonne musique. Capitaine Fantastique, le film de Matt Ross de 2016, réunit tous ces éléments. Le film fut présenté à sa sortie au Festival de Cannes. Il a également été présenté au Festival du film américain. Bande originale revient sur la bande-son de ce film aux multiples récompenses. Une bande-son que l'on doit à l'artiste américain Alex Somers. Le jeune homme de 34 ans est tombé dans une marmite musicale dès son plus jeune âge. Il est le membre fondateur du groupe Parachute, un groupe fondé en 2003 qui à l'époque mélangeait instruments de musique et ustensiles de cuisine. En plus de ses compositions musicales, il a travaillé sur pas mal d'albums de rockers islandais pour la réalisation des pochettes, mais quoi de plus normal puisqu'il est également diplômé en art graphique visuel. En 2014, il a composé l'entier des titres de la série télé Manhattan, mais c'est réellement la musique du film de Capitaine Fantastique qui l'a élevé au rang de star et qui lui a permis de flirter avec le succès. Un film dramatique qui narre l'histoire de Ben et son épouse, vivant reclus en forêt et totalement isolés de la société, un mode de vie qu'ils imposent à leurs 6 enfants. Le père dévoué se consacre en plus des tâches ménagères, corps et âme, à l'enseignement académique et physique de toute sa troupe. Les journées sont chargées pour tous, mais le soir, chacun apprécie de partager quelques moments autour d'un feu et prendre le temps de lire ou de chanter.
She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue.
Un événement dramatique va se produire au sein de la petite famille et la forcer à quitter son petit nid et affronter le monde qu'elle a fui auparavant et revenir petit à petit dans la réalité ou pas. L'album du film est composé de 24 pistes, mais certaines chansons ne figurent pas sur l'opus. C'est le cas de la reprise de Sweet Child O' Mine, la chanson culte du groupe Guns N' Roses, une chanson qui, en plus de s'être classée à la première place du Billboard Hot 100, est l'un des plus grands succès commerciaux des rockers et se trouve sur leur 3e album studio, Appetite for Destruction, de 1987. Un titre sur lequel on clôture ce bande originale, un titre qui n'a pas pris une ride pour preuve.
Le merveilleux Sweet Child of Mine des Guns Roses, repris dans le film par, en version acoustique et en version lyrique par la protagoniste du film, une des protagonistes, une des enfants donc de ce fameux Capitaine Fantastique qui était à l'honneur pour bande originale. Et c'est sur ces merveilleuses notes que je vous souhaite une belle fin d'année. Les cinéphiles reviendront en 2019, j'espère que vous serez fidèles au rendez-vous. Donc votre rendez-vous pour parler 7e art à suivre sur nos ondes AOC, votre émission 100% labellisée suisse, votre émission musicale qui vous fait parcourir plein d'endroits et plein de sonorités. Je vous souhaite de passer une très très belle soirée. Je me réjouis de vous retrouver en 2019.
Les cinéphiles.